Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique pour le sixième dimanche de Pâques. À l'heure où Jésus va passer de ce monde à son Père, il dit à ses disciples :
Si vous m'aimez, vous garderez les directives qui sont les miennes. Et moi, j'intercéderai auprès du Père. Et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. Le monde n'est pas capable de le recevoir parce qu'il ne le discerne et ne le pénètre pas. Mais vous, vous le pénétrez parce qu'il demeure parmi vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me discerne plus, mais vous, vous me discernez. Je vis et vous vivrez. En ce jour-là, vous pénétrerez vous-même que nous sommes, moi dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui retient mes directives et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ces paroles, je vous les ai dites en demeurant avec vous, mais le paraclet, l'Esprit de sainteté, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, ce texte peut paraître à une première lecture obscure, abstrait, même s'il nous parle de Père, de Fils et d'Esprit. Peut-être qu'il ne fait pas appel à des images de notre vie quotidienne, alors on essaiera de lui faire prendre davantage vie en le situant dans le milieu qui a été celui de Jésus.
C'est important Georges. Donc, où ce texte est-il situé dans le récit de Jean?
Il fait partie, comme celui de dimanche dernier, du premier discours d'adieu. Son thème central peut se résumer ainsi, « Je m'en vais, mais je reviendrai ». C'est le discours d'adieu au cours du repas, du dernier repas de Jésus. Jésus veut raffermir la foi de ses disciples, les disciples qui ont été doublement ébranlés, d'abord par l'annonce de son départ, et ensuite par celle du reniement de Pierre et de la trahison de Judas. Malgré la sérénité de ces paroles de Jésus, il ne faut jamais oublier quel drame les disciples ont vécu. Celui en qui ils avaient mis leur foi, et leur foi comme devant assumer le rôle de Messie sauveur de la nation, eh bien, celui-là semble à leurs yeux avoir échoué.
Je ne vous laisserai pas orphelin. J'intercéderai auprès du Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous pour toujours.
Oui, pour aider ses disciples à surmonter leur désespoir, voilà ce que Jésus leur promet. Un autre paraclet.
Qui est ce personnage, le paraclet?
Alors essayons de rappeler un peu ce qui se passait au temps de Jésus. Eh bien, comme autrefois dans la famille québécoise, la famille palestinienne était le milieu où se transmettait la foi. C'est en effet le Père qui était le dépositaire, on peut dire, de la Torah, c'est-à-dire de la règle de vie donnée par Dieu, de toute la sagesse de vie qu'on se transmettait dans le peuple juif de génération en génération. Oh, bien sûr, cette sagesse était mise par écrit dans ce qu'on appelle les Écritures, la Bible, mais comme la Bible était rédigée en hébreu et que cette langue n'était plus à l'époque de Jésus la langue parlée, eh bien, il fallait traduire la Torah dans le langage courant de la Palestine, l'araméen. À la synagogue, le lieu de prière des Juifs, ce traducteur en araméen était appelé le paraclita. Le mot paraclita est araméen, mais il est la simple transposition d'un mot grec, parakletos. En effet, les Juifs n'ont pas traduit d'une certaine manière ce mot paraclétos. D'ailleurs, Jérôme, lorsqu'il traduira la Bible plus tard, ne fera lui que transcrire le mot grec paraclétos en latin, et ce sera paraclitus. Et en français, eh bien, nous n'avons pas plus traduit, c'est paraclé.
Que veut dire le mot grec paraclétos?
Il vient d'un verbe qui signifie appeler quelqu'un auprès de soi. Alors, ça peut désigner qui? Eh bien, celui qu'on appelle auprès de soi, ça peut être un conseiller. Ou bien un avocat pour nous aider lorsqu'on est en procès. Ou bien un interprète. Et dans nos évangiles, il y a donc plusieurs variantes, dans les traductions des évangiles, il y a plusieurs variantes pour traduire paraclet. Ou bien l'on parle de l'esprit avocat, ou on parle de l'esprit conseiller. On trouve aussi d'ailleurs la traduction de consolateur, mais les experts disent qu'elle semble mauvaise, car le mot paraclétos, le mot grec, n'est pas un mot au sens actif, c'est un passif, un participe passé passif, et ça devrait donc se traduire par non pas le consolateur, mais le consolé. Or, ce n'est pas l'esprit qui est le consolé, c'est nous. Souvent, on va donc tout simplement franciser le mot et dire le paraclet. Mais revenons à la tradition palestinienne pour bien comprendre qui est ce paraclet. Alors à la maison, on peut dire que c'est le père qui joue ce rôle de paraclet, d'interprète de la Torah auprès de son enfant. Il vient en effet interpréter en araméen les formules hébraïques, en hébreu, de la Bible. On pourrait aussi dire d'ailleurs que la mère joue un même rôle, le rôle de paraclet, lorsqu'elle fait répéter la Torah à son enfant, et surtout lorsqu'elle va l'aider à mettre la Torah, l'enseignement de Dieu, en pratique dans le quotidien de la vie. Le père, lui, fait répéter par cœur à son enfant les formules de la Torah, formules en hébreu. Ces formules sont rythmées et même chantonnées pour être mieux retenues par la mémoire. Autrefois, c'était ainsi d'ailleurs que nous apprenions les commandements de Dieu. Un Dieu unique adorera et aimera parfaitement. Nos proverbes sont aussi des formules bien rythmées et même rimées pour être mieux retenues. On pourrait donner comme exemple, en avril ne te découvre pas d'un fil, en mai fais ce qu'il te plaît. Les textes en vers et particulièrement en alexandrin qui ont 12 pieds se retiennent, paraît-il, plus facilement, et c'est sans doute pour cela que les grandes œuvres en vers sont celles du théâtre de Corneille, de Racine, de Molière, de Victor Hugo. Chez nous, ce rôle de la mémoire, il y a encore peu de temps, était très important. On apprenait par exemple par cœur des chansons, des poèmes, des leçons. Mais depuis un demi-siècle, nous avons multiplié les livres. Et la photocopie a mis plus facilement à la disposition des élèves les écrits. Depuis une quinzaine d'années, eh bien, ce sont les ordinateurs qui deviennent notre mémoire. Mais est-ce que c'est bien la même chose? Ce n'est pas si certain. Je pourrais donner simplement un petit fait vécu. Un ami était venu m'initier à un logiciel d'ordinateur. Et avant qu'il ne parte, parce que je ne me fiais pas à mes mémoires rouillées, je voulais mettre par écrit les différentes opérations. Mais il m'a dit non, ne mets pas par écrit. Tu vas faire devant moi plusieurs fois les opérations qu'il faut faire et tu verras que tu t'en souviendras. Eh bien, il avait raison. Car on ne connaît vraiment que ce qui est gravé dans notre mémoire, ce que nous gardons dans notre mémoire, et que nous pouvons donc reproduire, et cela sans l'aide de notes. Les notes, d'ailleurs, on les appelle des aides-mémoire. Elles ne constituent pas la mémoire. On peut aussi évoquer qu'en Afrique, où les anciens sont encore considérés comme les gardiens du savoir, des traditions, on dit lorsqu'un aîné meurt, c'est comme si c'était une bibliothèque qui brûlait. Et pour aller encore plus loin, eh bien Jules César, dans sa Guerre des Gaules, raconte que les druides gaulois enseignaient ainsi de bouche à oreille et en formule rythmique. Il écrit en effet:
ils tiennent pour religieusement défendu la mise par écrit de ces vers. Ils me paraissent avoir posé cet interdit pour 2 raisons. Ils ne veulent pas que leur tradition tombe chez le vulgaire, et ils craignent que leurs apprenneurs, se fiant à l'écriture, ne négligent leur mémoire. « Georges, ne sommes-nous pas loin de notre récit évangélique?
Oui, on pourrait le penser, mais peut-être pas, car la mémoire a aussi un grand rôle dans notre relation avec Jésus. Celui qui a mes préceptes et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Jésus fait écho ici à de nombreux textes de la Bible où il est question de garder les préceptes de Dieu. Et ce verbe « garder », eh bien, on le trouve le plus souvent accouplé avec le verbe « mettre en pratique ». Ainsi, écoutons ce que dit le Deutéronome.
« Écoute, Israël, les préceptes que je prononce à tes oreilles, apprends-les et garde-les pour les mettre en pratique. »
Ces préceptes de Dieu, Israël, en effet, les a reçus de Moïse, et Moïse les tenait de Dieu.
« Toi, Moïse, approche pour entendre tout ce que dira le Seigneur notre Dieu. » Puis tu nous répéteras ce que le Seigneur notre Dieu t'aura dit. Nous l'écouterons et le mettrons en pratique.
Ainsi, à travers l'histoire d'Israël, de génération en génération, ce sont les pères qui vont redire ces préceptes à leurs enfants. Et cet enseignement de la sagesse de vie qui vient de Dieu, eh bien c'est sans doute cela qui va faire le lien très fort qui va être tissé entre père et fils, entre parents et enfants. Et c'est ce lien-là, cette transmission de la sagesse, qui va faire, d'une certaine manière, la relation paternelle, maternelle, filiale. Aucune personne humaine, nous le savons, ne trouve en elle-même tout ce qu'il lui faut pour vivre. On reçoit tous la vie d'un ailleurs, d'un autre que nous-mêmes. Chaque personne humaine est faite de ce qu'elle a reçu des autres êtres humains, ce qu'elle a reçu de l'univers entier. Son sang, son souffle, sa chair, ses gènes, mais aussi sa pensée, ses idées et sa capacité d'aimer, car pour savoir aimer, il faut avoir été aimé. Et ne pas reconnaître cette dépendance, la nier, la refuser, eh bien on sait que c'est se couper de la source de vie, c'est se vouer à la mort. Au contraire, recevoir, accueillir, reconnaître ce qui nous est donné, c'est faire grandir en soi la vie et la communion. Si on veut faire une parabole en reprenant le langage de l'informatique, on pourrait dire que la mémoire génétique, c'est comme une base de données, et une base de données qu'il nous faut traiter, informer, tout au long de notre vie, pour qu'elle devienne vivante, cette base. C'est à cette expérience de la transmission que Jésus, lui, emprunte les images fortes avec lesquelles il nous parle de Dieu son Père.
Le Père montre au Fils tout ce qu'il fait.
Et on sait qu'au temps de Jésus, le plus souvent, c'est le Père qui montrait les gestes du métier à son Fils. Mais Joseph, et cela comme tout Père humain, n'aurait été qu'un Père provisoire, c'est-à-dire celui qui aura conduit au seul vrai Père qui est Dieu. Il aura été un intermédiaire.
N'appelez Père personne d'entre vous sur terre. Un seul, en effet, est votre Père, celui du ciel.
Oui, c'est dans son intimité avec Dieu comme son Père que Jésus va puiser sa connaissance, sa sagesse, son évangile.
La parole que vous écoutez n'est pas la mienne. C'est celle du Père qui m'a envoyé.
Oui, en effet, même si l'évangile est dans la droite ligne de la tradition qui a été transmise par Moïse et depuis Moïse, eh bien, l'Évangile est d'abord et avant tout le fruit d'une expérience directe auprès du Père. Il est puisé dans le dialogue intime de Jésus avec Dieu son Père. Et un dialogue tellement unifiant que Jésus pourra dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Eh bien, entre Jésus et ses disciples, tout au long des mois de la mission de Jésus, il s'est établi une semblable relation. Pour eux, en effet, Jésus a joué le rôle du Père qui transmet la sagesse. Et c'est cela qui crée, entre lui et ses disciples, une unité tellement forte. Nous sommes, moi dans le Père, vous en moi et moi en vous. Et Jésus nous dit que cette transmission de vie et de sagesse se fait dans l'amour. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Eh bien, entre Jésus et ses disciples, ce sera d'une manière semblable.
Je ne vous appelle plus serviteur, élève. Je vous appelle mes amis, mes frères.
Oui, c'est là la source de cette amitié, l'explication de cette amitié.
Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et vous êtes mes amis si vous mettez en pratique mes paroles. Mais si Jésus a été si important pour connaître le Père, lorsqu'il quitte ses disciples, comment garderont-ils la pensée du Père?
Eh bien, c'est dans la communion intérieure à son esprit que les disciples, alors, pourront puiser leur sagesse de vie.
L'Esprit vous enseignera tout et vous fera faire mémoire de tout ce que je vous ai dit.
Et non seulement l'Esprit va rappeler les paroles de Jésus à la mémoire des disciples, mais comme un paraclet, il va les interpréter, les traduire dans les mots d'aujourd'hui, dans le contexte de la vie quotidienne de chaque disciple. Et non seulement il va les traduire, mais il va les faire vivre. On ne garde bien dans sa mémoire que ce que l'on a agi, que ce que l'on a acté, que ce que l'on fait, que ce que l'on vit, que ce que l'on active. Autrement, la parole reste une parole morte. Garder la parole, c'est pas simplement la garder morte dans sa mémoire, c'est la mettre en pratique, c'est s'en inspirer pour vivre et pour agir. On ne garde bien la parole qu'en la faisant. On ne garde bien la sagesse de vie qu'en la mettant en pratique, qu'en l'appliquant. La sagesse transmise par les paroles de Jésus, on pourrait dire, pour reprendre encore l'image de l'informatique, que c'est comme un logiciel d'ordinateur. Elle peut informer nos pensées et nos gestes, car elle est une information qui peut donner forme à notre vie, qui peut la façonner. Et c'est l'Esprit du Père qui active cette information, l'Esprit qui est une force d'amour. C'est pourquoi Jésus fait toujours un lien entre garder la parole et aimer. Si vous m'aimez, vous garderez mes préceptes. Et remarquons bien ce que dit Jésus. C'est l'amour qui conduit à mettre en pratique la sagesse qui vient du Père. C'est l'amour, ce n'est pas la soumission à des commandements, et encore moins la crainte de ne pas être aimé de Dieu. Et Jésus ne dit pas non plus, si vous gardez mes préceptes, moi je vous aimerai, le Père vous aimera. Non, il nous dit, si vous m'aimez, vous garderez et vous vivrez selon mes préceptes. C'est-à-dire, vous aimerez à ma manière, vous aimerez à la manière du Père. C'est cela, être disciple de Jésus. Aimer et vivre au nom du Fils, comme le Fils. Aimer et vivre au nom du Fils, comme le Fils vit et aime au nom du Père. Et cette vie dans l'amour, aussi difficile soit-elle, eh bien Jésus nous assure qu'elle nous est possible par l'Esprit. Oh, les prophètes juifs avaient déjà perçu que pour vivre la Torah, il fallait que Dieu nous en donne la force. Rappelons Ézéchiel.
Je mettrai mon esprit en vous. Vous garderez et pratiquerez mes préceptes.
Je mettrai mon esprit en vous. Eh bien, Jésus fait cette même promesse et il dit qu'il en assurera la réalisation. Il intercédera et c'est en son nom que le Père enverra le Paraclet, l'Esprit d'amour.
C'est donc dans la tradition de son peuple, où la sagesse se transmettait dans la famille, que Jésus a trouvé les images qui traduisent le mieux la relation de l'humain avec Dieu. Mais cela est-il encore parlant aujourd'hui?
Oui, on sait que bien la famille est souvent éclatée chez nous. Et on sait aussi que le savoir est de plus en plus transmis par l'école, voire par l'ordinateur. Internet devient en effet chaque jour une source immense où nous pouvons puiser le savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un certain danger d'appauvrissement? En effet, Le livre ne peut jamais totalement remplacer le maître. L'écran cathodique ne peut pas remplacer le contact direct avec la personne. La parole qui est écrite, ben c'est déjà presque une parole morte parce qu'il lui manque l'intonation de la voix, les expressions du visage. Toute parole porteuse de vie doit être dite par une personne vivante qui s'y investit avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait. L'Évangile peut aussi être lu comme un écrit mort. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit redit par des personnes vivantes, par des personnes animées de l'Esprit de Jésus? Et ces premières personnes qui doivent nous transmettre l'Évangile comme une parole de vie sont bien sûr notre famille de sang. Mais la transmission de la sagesse de vie ne saura jamais se limiter au cercle de la famille de sang. La famille charnelle doit être relayée par la famille spirituelle, c'est-à-dire par celle qui est composée de tous ceux qui sont à l'écoute de la parole du Père divin, de tous ceux, c'est une famille qui est définie par ceux et celles qui sont à l'écoute de la parole du Père divin. Jésus l'a dit.
Qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole du Père et la font, la mettent en application.
Voilà pourquoi il nous faut écouter la parole avec d'autres disciples, avec d'autres chrétiens. À travers ces autres chrétiens, ces autres disciples, la parole de Dieu sera vivante et elle nous façonnera. Les autres nous engendreront alors à la vie de Dieu. Ils deviendront d'une certaine manière nos engendreurs au nom du Père. La tradition juive s'exprime ainsi.
Quiconque fait apprendre les leçons de la Torah au fils de son prochain, celui-là lui est compté comme s'il l'avait engendré.
Oui, apprendre les leçons de la Torah au fils d'un voisin, d'un ami, c'est ça qui va faire qu'on l'a engendré. Le Père qui engendre selon la chair est remplacé par le Père qui engendre selon l'Esprit. Et Paul rappellera cette filiation à ses chers Corinthiens.
Quand bien même vous auriez 10 000 pédagogues en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Jésus-Christ. Soyez donc mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ.
Oui, c'est dans cette formation mutuelle, réciproque, que réside la nécessité de la pratique chrétienne. Alors, certains chrétiens disent aujourd'hui, moi je suis croyant mais pas pratiquant. Ben certes, on peut être croyant en Dieu sans pratiquer et sans appartenir à une communauté de foi. Mais je ne pense pas qu'on puisse être chrétien sans communauté, c'est-à-dire sans pratiquer la vie d'une famille spirituelle, une famille où la parole du Christ habite dans toute sa richesse, comme le dit Paul aux Colossiens.
Instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous en pleine sagesse.
Paul parle même souvent de se construire mutuellement, de s'édifier. Certes, la famille de sang peut parfois être cette famille spirituelle. Mais aujourd'hui, c'est rare. Et lorsque cette famille de sang n'est plus, pour toutes sortes de raisons, une famille spirituelle, alors il est nécessaire que l'Église refasse des petites fraternités chrétiennes, c'est-à-dire des églises de base, qui sont de plus en plus nécessaires. En partageant notre vécu quotidien, nous pressentons la vie divine qui agit au cœur de chacun des membres de cette famille spirituelle. Et c'est à partir de cette densité de vie que le partage de l'Évangile devient porteur de vie divine. Et alors se réalise réellement la parole de Jésus, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance ». Oui, c'est cette petite Église qui peut nous conduire à Jésus pour que nous puissions le découvrir, le connaître et vivre en son nom.
Le monde ne me discerne plus, mais vous, vous me discernez. Je vis et vous vivrez.
Ce discernement de la présence de Jésus n'est pas si évident chez les baptisés, chez les chrétiens. Écoutons ce que disait un moine d'Orient.
De beaucoup qui croient tout ce qu'il faut croire et qui mènent une vie juste et pieuse, nous pouvons nous demander, cette âme connaît-elle le Sauveur? Le connaît-elle d'une manière intime? Comme on peut connaître son ami le plus proche, comme seul peut être connu celui qui nous est plus intérieur que nous-mêmes.
Jésus, en effet, ne peut être visiblement vivant au milieu de nous, chrétiens, que si nous le donnons à voir, à discerner, que si, ensemble, les uns par les autres, les uns avec les autres, nous mettons en application sa pratique d'amour, sa pratique de vraie solidarité avec tous. Et on sait que Jésus a mis là des priorités, une vraie solidarité d'abord avec ceux dont on piétine les droits humains. Aujourd'hui, ce peut être les chômeurs qui sont exclus du droit au travail. Ce peuvent être les torturés à cause de leurs idées ou de leur origine ethnique. Ce peuvent être ces jeunes enfants qu'on utilise pour faire la guerre des grands. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui et il demeure en Dieu, écrit Jean dans la première lettre. Qui me voit, voit le Père, a dit Jésus. Ajoutons, qui nous voit, voit Jésus. Et cela, eh bien cela reste toujours à faire et à refaire. Mais nous savons que cela est possible, car Jésus nous a assuré que le Paraclet nous est donné, et qu'il nous est donné pour toujours.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre numéro de télécopieur, le 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet, téléphonez-nous. Et nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.